Chapitre 17. Éléments pour un socialisme participatif au XXIe siècle. J'ai essayé dans cet ouvrage de présenter une histoire raisonnée des régimes inégalitaires, depuis les sociétés trifonctionnelles et esclavagistes anciennes, jusqu'aux sociétés hypercapitalistes et postcoloniales modernes. Toutes les sociétés humaines ont besoin de justifier leurs inégalités. Leur histoire se structure autour des idéologies qu'elles développent afin d'organiser les rapports entre les groupes sociaux et les relations de propriété et de frontières au travers de dispositifs institutionnels complexes et changeants. Cette quête d'une inégalité juste n'est certes pas exempte d'hypocrisie de la part des groupes dominants, mais elle contient toujours des éléments de plausibilité et de sincérité dont il est possible d'extraire des leçons utiles pour la suite. J'ai également tenté de montrer dans les derniers chapitres de ce livre les dangers considérables entraînés par la remontée des inégalités socio-économiques observées depuis les années 1980-1990. Faute d'avoir su se renouveler suffisamment, dans un contexte marqué par l'internationalisation des échanges et la tertiarisation éducative, la coalition social-démocrate et le système gauche-droite qui avaient permis la réduction des inégalités au milieu du XXe siècle se sont progressivement décomposés. La révolution conservatrice des années 1980, l'effondrement du communisme soviétique et le développement d'une nouvelle idéologie de type néo-propriétariste ont conduit le monde vers des niveaux impressionnants et incontrôlés de concentration des revenus et des patrimoines en ce début de XXIe siècle. Ces inégalités engendrent un peu partout des tensions sociales croissantes. Faute de débouchés politiques constructifs à visée égalitaire et universelle, ces frustrations nourrissent la montée des clivages identitaires et nationalistes que l'on observe actuellement dans pratiquement toutes les régions du monde, aux États-Unis et en Europe, en Inde et au Brésil, en Chine ou au Moyen-Orient. À partir du moment où l'on explique qu'il n'existe aucune alternative crédible à l'organisation socio-économique actuelle et aux inégalités entre classes, il n'est pas étonnant que les espoirs de changement se reportent sur l'exaltation de la frontière et de l'identité. Or, le nouveau récit hyper-inégalitaire qui s'est imposé depuis les années 1980-1990 n'est pas une fatalité. S'il est en partie le produit de l'histoire et du désastre communiste, il découle aussi de l'insuffisante diffusion des connaissances, de barrières disciplinaires trop rigides et d'une appropriation citoyenne limitée des questions économiques et financières qui sont trop souvent abandonnées à d'autres. Sur la base des expériences historiques disponibles, je suis convaincu qu'il est possible de dépasser le système capitaliste actuel et de dessiner les contours d'un nouveau socialisme participatif pour le XXIe siècle, c'est-à-dire une nouvelle perspective égalitaire à visée universelle, fondée sur la propriété sociale, l'éducation et le partage des savoirs et des pouvoirs. Je vais tenter, dans ce dernier chapitre, de rassembler quelques-uns des éléments permettant d'avancer dans cette direction sur la base des enseignements déjà évoqués dans les chapitres précédents. Je vais commencer par étudier les conditions d'une propriété juste. Cela exige de développer de nouvelles formes de propriété sociale, de partage des droits de vote et de participation à la prise de décision dans les entreprises. Cela demande également de remplacer la notion de la propriété privée permanente par celle de propriété temporaire, au travers d'un impôt fortement progressif sur les propriétés importantes, permettant de financer une dotation universelle en capital et d'organiser ainsi une circulation permanente des biens et de la fortune. J'analyserai également le rôle de l'impôt progressif sur le revenu et du revenu de base, ainsi que la question de la justice éducative. J'aborderai enfin la question de la démocratie et de la frontière, et la façon dont il est possible de repenser l'organisation actuelle de l'économie monde au profit d'un système démocratique transnational fondé sur la justice sociale, fiscale et climatique. Disons-le clairement, il serait absurde de prétendre apporter sur des questions aussi complexes des réponses parfaitement satisfaisantes et convaincantes, des solutions qu'il n'y aurait plus qu'à appliquer les yeux fermés. Telle n'est évidemment pas la vocation des lignes qui suivent. Toute l'histoire des régimes inégalitaires montre que ce sont avant tout les mobilisations sociales et politiques et les expérimentations concrètes qui permettent le changement historique. L'histoire est le produit des crises et ne s'écrit jamais de la façon prévue dans les livres. Pour autant, il me semble utile de faire le point dans ce chapitre final sur les leçons qu'il est possible de tirer des matériaux disponibles et sur les positions que je serais amené à défendre si je disposais d'un temps de délibération infini. J'ignore la forme que prendront les crises à venir et la façon dont elles puiseront dans les répertoires d'idées existants pour inventer des trajectoires nouvelles. Mais il ne fait aucun doute que les idéologies continueront de jouer un rôle central pour le meilleur et pour le pire. La justice comme participation et comme délibération. Qu'est-ce qu'une société juste? Dans le cadre de ce livre, je propose la définition imparfaite suivante. La société juste est celle qui permet à l'ensemble de ses membres d'accéder aux biens fondamentaux les plus étendus possibles. Parmi ces biens fondamentaux figurent notamment l'éducation, la santé, le droit de vote, et plus généralement la participation la plus complète de tous aux différentes formes de la vie sociale, culturelle, économique, civique et politique. La société juste organise les relations socio-économiques, les rapports de propriété et la répartition des revenus et des patrimoines afin de permettre aux membres les moins favorisés de bénéficier des conditions d'existence les plus élevées possibles. La société juste n'implique pas l'uniformité ou l'égalité absolue. Dans la mesure où elle résulte d'aspirations différentes et de choix de vie distincts, et où elle permet d'améliorer les conditions de vie et d'accroître l'étendue des opportunités ouvertes aux plus défavorisés, alors l'inégalité des revenus et de propriété peut être juste. Mais ceci doit être démontré et non supposé, et cet argument ne doit pas être utilisé pour justifier n'importe quel niveau d'inégalité, comme cela est trop souvent fait. Cette définition imprécise de la société juste ne règle pas tous les problèmes tant s'en faut. Seule la délibération collective peut permettre d'aller plus loin, sur la base des expériences historiques et individuelles dont nous disposons, et de la participation de tous ses membres. C'est d'ailleurs pourquoi la délibération est à la fois une fin et un moyen. Cette définition permet toutefois de poser certains principes. En particulier, l'égalité d'accès aux biens fondamentaux doit être absolue. On ne peut pas offrir une participation politique, une éducation ou un revenu plus étendu à certains groupes en privant d'autres groupes de l'accès au droit de vote, à l'école ou à la santé. La question consistant à savoir où s'arrêtent les biens fondamentaux, éducation, santé, logement, culture, etc., fait évidemment partie du débat et ne peut être tranchée indépendamment de la société considérée et du contexte historique. De façon générale, il me semble que les questions intéressantes commencent quand on entre dans l'étude de l'idée de justice au sein de sociétés historiques particulières et que l'on analyse comment les conflits autour de la justice s'incarnent dans des discours, des institutions et des dispositifs sociaux, fiscaux et éducatifs spécifiques. Certains trouveront peut-être que les principes de justice que je viens d'énoncer s'approchent de ceux formulés par John Rawls en 1971. C'est en partie le cas, à la condition toutefois d'ajouter que l'on retrouve des principes similaires sous des formes beaucoup plus anciennes dans différentes civilisations, ainsi que dans l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Or, les grandes déclarations de principes, telles que celles formulées lors de la Révolution française ou au moment de l'indépendance des États-Unis, n'ont aucunement empêché de très fortes inégalités sociales de perdurer, voire de s'exacerber dans ces deux pays au cours du XIXe et jusqu'au début du XXe siècle, sans parler des violents systèmes de domination coloniale, esclavagiste et statutaire qu'ils ont mis en place jusqu'aux années 1960. C'est pourquoi il faut se méfier des principes abstraits et généraux de justice sociale et se concentrer sur la façon dont ils s'incarnent dans des sociétés particulières et dans des politiques et des institutions concrètes. Les éléments pour un socialisme participatif qui vont être présentés ci-après se fondent avant tout sur les enseignements des évolutions historiques qui ont été présentées dans ce livre, et en particulier sur les leçons des transformations considérables des régimes inégalitaires observés depuis le début du XXe siècle. Ils ont été pensés pour des sociétés historiques particulières, à savoir celles du début du XXIe siècle. Certains éléments évoqués plus loin demandent pour être mis en place une capacité étatique, administrative et fiscale relativement avancée, et en ce sens sont plus directement adaptés aux sociétés occidentales et non occidentales les plus développées. Mais ils ont été pensés avec une visée universelle, et ils peuvent également s'appliquer graduellement dans les pays pauvres et émergents. Les propositions développées ici relèvent de la tradition du socialisme démocratique, notamment pour ce qui concerne l'accent mis sur le dépassement de la propriété privée et l'implication des salariés et de leurs représentants dans la gouvernance des entreprises, qui a par exemple joué un rôle central dans la social-démocratie germanique et nordique. Je préfère parler de socialisme participatif pour insister sur l'objectif de participation et de décentralisation, et pour distinguer nettement ce projet du socialisme étatique hyper-centralisé expérimenté dans les pays relevant au XXe siècle du communisme de type soviétique, et encore à l'œuvre dans une large mesure au sein du secteur public chinois. La vision proposée fait également jouer un rôle essentiel au système éducatif et au thème de la propriété temporaire et de l'impôt progressif qui a tenu une place centrale dans le progressisme anglo-saxon, ainsi que dans les débats de la Révolution française, sans aboutir. Compte tenu du bilan largement positif du socialisme démocratique et de la social-démocratie au XXe siècle, en particulier en Europe occidentale, il me semble que le mot « socialisme » mérite encore d'être utilisé au XXIe siècle, en l'occurrence en s'inscrivant dans cette tradition, tout en cherchant à la dépasser et à répondre aux insuffisances social-démocrates les plus criantes observées au cours des dernières décennies. En tout état de cause, le fond des propositions évoquées ici est plus important que l'étiquette qu'on leur donne. Et je peux comprendre que certains lecteurs jugent le mot « socialisme » définitivement abîmé par l'expérience soviétique ou par des expériences de gouvernement plus récentes qui n'ont eu de « socialiste » que le nom, et préfèrent développer de nouveaux termes, même si je ne partage pas cette conclusion. J'espère néanmoins qu'ils accepteront de suivre mon raisonnement et les propositions qui en découlent, et qui en réalité sont issues d'expériences et traditions multiples. Précisons enfin que les options défendues ici correspondent à l'expérience de pensée suivante. Supposons que nous disposions d'un temps infini pour débattre au sein d'une immense agora mondiale et convaincre les citoyens du monde de la meilleure façon d'organiser le régime de propriété, le système fiscal et éducatif, le système de frontières et le régime démocratique lui-même. Les options indiquées plus loin sont celles que je défendrai dans ce cadre, sur la base des connaissances historiques accumulées pour écrire ce livre, et dans l'espoir de convaincre le plus grand nombre de personnes en vue de leur possible mise en place. Si cette expérience de pensée me semble utile, il va de soi qu'elle est relativement artificielle à plusieurs titres. Tout d'abord, personne ne dispose de ce temps quasi infini. En particulier, les mouvements et partis disposent souvent de très peu de temps pour essayer de communiquer leurs idées et propositions aux citoyens, compte tenu de l'attention limitée que ces derniers leur accordent, souvent pour de bonnes raisons, car ils peuvent avoir d'autres priorités dans la vie que de les écouter. Ensuite et surtout, si cette expérience de délibération infinie se déroulait réellement, alors je serais sans nul doute amené à revoir profondément les positions que je vais défendre, qui sont uniquement le reflet des arguments, des informations et des sources historiques fort limitées auxquelles j'ai été exposé jusqu'ici, et qui s'enrichissent à chaque délibération supplémentaire. J'ai déjà été amené à revoir profondément mes positions à la suite de mes lectures et des rencontres et débats auxquels j'ai eu la chance de participer, et il en ira de même à l'avenir. Autrement dit, la justice doit avant tout être conçue comme le résultat d'une délibération collective toujours en cours. Aucun livre, aucun être humain ne pourra jamais définir à lui seul le régime de propriété idéal, le système de vote parfait ou le barème fiscal miracle. Seule une vaste expérimentation collective, au fur et à mesure de l'histoire des sociétés humaines, pourra nous permettre de faire quelques progrès dans cette direction, en s'appuyant sur l'expérience de chacun et la délibération la plus étendue possible, à défaut d'être infinie. Les éléments développés ci-après visent simplement à indiquer quelques pistes d'expérimentation possibles sur la base des trajectoires historiques analysées au cours des chapitres précédents. Du dépassement du capitalisme et de la propriété privée. Qu'est-ce qu'une propriété juste ? Il s'agit de la question la plus complexe et la plus centrale à laquelle il faut tenter de répondre pour définir le socialisme participatif et envisager un dépassement du capitalisme. J'ai défini dans le cadre de cette enquête le propriétarisme comme l'idéologie politique fondée sur la défense absolue de la propriété privée et le capitalisme comme l'extension du propriétarisme à l'âge de la grande industrie, de la finance internationale et aujourd'hui de l'économie digitale. Le capitalisme repose à son fondement sur la concentration du pouvoir économique au niveau des propriétaires du capital. En principe, les propriétaires du capital immobilier peuvent décider à qui ils souhaitent le louer et à quel prix, alors que les propriétaires du capital financier et professionnel détiennent seuls les rênes de la gouvernance des entreprises, suivant le principe « une action, une voix », ce qui leur permet notamment de décider souverainement qui embaucher et pour quel salaire. En pratique, ce modèle de capitalisme pur et dur a connu de multiples variantes et amendements qui ont contribué à faire évoluer la notion de propriété privée depuis le XIXe siècle, notamment au travers du système légal et social et du système fiscal. D'une part, le système légal et social a permis de limiter le pouvoir des propriétaires, par exemple en donnant aux locataires des protections de long terme contre les évictions et les changements de loyer, voire parfois en leur donnant la possibilité de racheter à bas prix le logement ou la terre au bout d'un usage suffisamment long, ce qui revient à une véritable redistribution de la propriété. De même, les pouvoirs des actionnaires dans les entreprises ont été fortement encadrés par le droit du travail et le droit social, allant dans certains pays jusqu'au partage des droits de vote entre représentants des salariés et des actionnaires au sein des conseils d'administration, ce qui, là encore, pourrait conduire en allant plus loin, à une véritable redéfinition du droit de propriété. D'autre part, le système fiscal a également contribué à réduire les droits des propriétaires. L'impôt progressif sur les successions, dont les taux applicables aux transmissions les plus importantes ont atteint 30-40% dans la plupart des pays développés au cours du XXe siècle, voire 70-80% aux États-Unis et au Royaume-Uni pendant de longues décennies, revient de facto à transformer la propriété permanente en une forme de propriété temporaire. Autrement dit, chaque génération peut accumuler des biens considérables, mais à la condition qu'elle en rende une part conséquente à la collectivité lors du passage à la génération suivante, ou aux autres héritiers potentiels qui doivent ainsi repartir sur de nouvelles bases. Par ailleurs, l'impôt progressif sur le revenu, dont les taux ont atteint des niveaux comparables à ceux de l'impôt successoral au XXe siècle, voire encore plus élevé dans les pays anglo-saxons, et qui historiquement visait avant tout les plus hauts revenus du capital, a également eu pour conséquence de compliquer considérablement la perpétuation dans le temps de propriétés importantes, sauf à accepter de réduire drastiquement son train de vie. Afin de dépasser le capitalisme et la propriété privée et de mettre en place le socialisme participatif, je propose de m'appuyer sur ces deux piliers et de les approfondir. Pour résumer, il est possible, en faisant évoluer le système légal et fiscal, d'aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent, d'une part en instituant une véritable propriété sociale du capital, grâce à un meilleur partage du pouvoir dans les entreprises, et d'autre part en mettant en place un principe de propriété temporaire du capital, dans le cadre d'un impôt fortement progressif sur les propriétés importantes permettant le financement d'une dotation universelle en capital et la circulation permanente des biens. Partager le pouvoir dans les entreprises, une stratégie d'expérimentation. Commençons par la propriété sociale. Des systèmes de partage des droits de vote sont en place en Europe germanique et nordique depuis la fin des années 1940 et le début des années 1950. Les représentants des salariés disposent ainsi de la moitié des voix dans les conseils d'administration en Allemagne et d'un tiers des voix en Suède, y compris dans le cas suédois dans les petites entreprises, indépendamment de toute participation au capital. Ces nouvelles règles dites de co-gestion ont été obtenues de haute lutte par les syndicats et leurs représentants politiques dans le cadre d'un mouvement revendicatif débutant à la fin du XIXe siècle et parvenant à établir un rapport de force plus favorable après le premier conflit mondial et surtout à l'issue du second conflit mondial. Ces changements légaux substantiels allèrent de pair avec des innovations constitutionnelles importantes. En particulier, les constitutions allemandes de 1919 et 1949 adoptèrent une définition sociale du droit de la propriété dont les termes doivent être fixés par la loi en fonction de l'intérêt général et du bien de la communauté, hors de toute sacralisation. Initialement combattues avec vigueur par les actionnaires privés, ces règles sont maintenant appliquées depuis plus d'un demi-siècle et font l'objet d'un très large consensus dans les pays concernés. Tous les éléments dont nous disposons suggèrent que ces règles ont été un grand succès. Elles ont permis une plus grande implication des salariés dans la définition des stratégies de long terme des entreprises et d'équilibrer la toute-puissance souvent néfaste des actionnaires et des intérêts financiers de court terme. Ces règles ont favorisé l'émergence en Europe germanique et nordique d'un modèle social et économique à la fois plus productif et moins inégalitaire que tous les autres modèles expérimentés jusqu'ici. Dès lors, il me paraît justifié de l'appliquer sans attendre dans les autres pays, dans sa version maximale, avec la moitié des droits de vote dans les conseils d'administration ou de direction de toutes les entreprises privées, y compris les plus petites. Aussi prometteuse soit-elle, la cogestion germanique et nordique comporte de nombreuses limitations, à commencer par le fait que les actionnaires détiennent toujours la voix décisive en cas d'égalité des votes. Pour aller plus loin, deux voies semblent particulièrement intéressantes. D'une part, la déconcentration de la propriété permise par l'impôt progressif, la dotation en capital et la circulation des biens, que nous analyserons plus loin, peut permettre aux salariés d'acquérir des actions de leur entreprise et de faire basculer la majorité en ajoutant des voix actionnariales à la moitié des voix dont ils disposent comme salariés. D'autre part, les règles reliant apport en capital et droit de vote doivent être elles-mêmes repensées. Ainsi que je l'ai déjà noté, il ne serait pas dans l'intérêt général de supprimer tout lien entre apport en capital et pouvoir économique, au moins dans les plus petites entreprises. Si une personne met toutes ses économies pour mener à bien un projet qui lui tient à cœur, il n'est pas anormal qu'elle dispose de plus de voix qu'un salarié qu'elle aurait embauché la veille et qui s'apprête peut-être lui-même à faire des économies pour développer son propre projet. La question est de savoir s'il ne serait pas justifié de plafonner les voix des actionnaires les plus importants dans les entreprises de plus grande taille, au-delà du fait que la moitié des voix irait en tout état de cause aux représentants des salariés. Une proposition en ce sens a été faite récemment concernant les sociétés de médias à but non lucratif. Les apports en capitaux supérieurs à 10% du capital n'apporteraient des droits de vote que pour un tiers de leur montant. Les droits de vote associés aux apports plus faibles, journalistes, lecteurs, crowdfunders, etc., étant majorés d'autant. Initialement pensée pour les médias et dans un cadre non lucratif, cette proposition pourrait être étendue à d'autres secteurs et pour des entreprises du secteur lucratif. De façon générale, une bonne formule pourrait être d'appliquer un plafonnement similaire des droits de vote pour tous les apports en capital supérieurs à 10% dans les entreprises de taille suffisamment importante. La justification est qu'il n'existe aucune raison dans une structure de grande taille de concentrer indéfiniment le pouvoir entre les mains d'une seule personne et de se priver des bénéfices de la délibération collective. On remarquera au passage qu'il existe dans de nombreux secteurs de multiples structures publiques ou privées qui s'organisent très bien en l'absence d'actionnaires. Par exemple, quand elles ne sont pas publiques ou semi-publiques, la plupart des universités prennent la forme de fondations. Les généreux donateurs, qui leur apportent une partie de leurs ressources, peuvent parfois en tirer quelques avantages, comme l'admission préférentielle de leurs enfants, voire parfois une place au conseil d'administration, ce qui mériterait d'ailleurs une régulation beaucoup plus stricte. Ce modèle d'organisation pose également d'autres problèmes qu'il faudrait corriger. Il n'en reste pas moins que la position des donateurs est beaucoup plus précaire que celle des actionnaires. Leur apport est incorporé irrévocablement à la dotation en capital de l'université et le conseil d'administration est libre de se renouveler et de les écarter comme bon lui semble, ce qui est impossible avec des actionnaires et leurs descendants. Cela ne les empêche pas de donner et ces organisations de fonctionner, bien au contraire. Certains ont parfois tenté d'organiser des universités ou des écoles sous forme de sociétés par action, mais les résultats ont été tellement catastrophiques à l'image de la Trump University, que ces tentatives ont presque entièrement disparu. Cela illustre assez clairement qu'il est non seulement possible de limiter drastiquement le pouvoir de ceux qui apportent du capital, mais que cela est souvent préférable pour la qualité de fonctionnement des organisations en question. On pourrait faire des observations similaires pour des organisations dans les secteurs de la santé, de la culture, des transports ou de l'environnement, dont tout indique qu'ils joueront un rôle central à l'avenir. De façon générale, l'idée selon laquelle le modèle de la société par action et de la règle « une action, une voix » constituerait une forme indépassable d'organisation économique ne résiste pas un instant à l'analyse. La déconcentration de la propriété et le plafonnement des droits de vote actionnariaux les plus importants constituent les deux façons les plus naturelles d'aller au-delà de la cogestion germanique et nordique. Il en existe d'autres, par exemple les propositions formulées récemment dans le contexte des débats britanniques, consistant à faire élire une partie des administrateurs par des assemblées mixtes salariés-actionnaires. Cela pourrait permettre à des délibérations et des coalitions d'un type nouveau de se développer au-delà des jeux de rôle stéréotypés auxquels la cogestion conduit parfois. Clore le débat ici et maintenant n'aurait aucun sens. C'est dans l'expérimentation concrète et les trajectoires socio-historiques réelles que se développeront ces nouvelles formes d'organisation et de rapports sociaux. Ce qui est certain, c'est qu'il existe de multiples pistes permettant d'aller au-delà de la cogestion et de dépasser le capitalisme par la propriété sociale et le partage du pouvoir.